Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Eric Vérag qui dirige le courrier des stratèges. Bonjour Eric.
Bonjour Yannick, c'est toujours un plaisir de vous retrouver.
C'est partagé mon cher Eric, on a une actualité vraiment très riche. Quand on va sur le site lecourrierdesstratèges.fr, vous êtes sans doute le site d'info le plus en pointe sur tout ce qui concerne la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec
c'est
des
gentil,
vidéos
ça.
Qui circulent, que beaucoup de journalistes ont, mais qu'ils ne diffusent pas. Par exemple, quand des soldats ukrainiens exécutent des prisonniers de guerre russes à bout portant. Comme si la France, au lieu de rester impartiale, parce que finalement, on est français, voilà, on n'est ni russe ni ukrainien, on est français. Comme si la France était clairement mise du côté de l'Ukraine, y compris en matière d'information ou de désinformation. Qu'en pensez-vous ?
Alors, je pense que malheureusement, nous ne sommes pas au bout de nos découvertes et c'est un peu ce qui m'inquiète, Yannick, je vais vous dire. Alors, je mets à part les journalistes qui ont des scrupules à montrer des images d'exécution en gros plan. Moi-même, si vous voulez, je trouve qu'on pourrait être taxé de voyeurisme et donc ça pose des problèmes moraux de faire ça, mais de diffuser ces images. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à une telle mauvaise foi de la propagande occidentale sur la situation réelle et notamment sur le rôle des bataillons d'extrême droite ou néo-nazis en Ukraine. Il y a une telle mauvaise foi sur ces sujets qu'on est bien obligé à un moment donné de dire « Attendez, c'est pas ça la réalité. La réalité, elle est beaucoup plus mesurée, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus partagée que ce combat du bien contre le mal qui nous est livré. Si on écoute les médias occidentaux, les médias subventionnés, en tout cas, on a l'impression que Vladimir Zelensky, le président ukrainien, c'est Dieu le Père qui est attaqué par le diable Poutine. Alors, la réalité est très différente. C'est à un moment donné, de mon point de vue, un devoir moral que de diffuser des images chocs, mais qui illustrent la violence dont peut témoigner l'armée ukrainienne. Mais au-delà de ça, et au-delà de ce sujet moral, il y a ce que vous soulignez très bien, Yannick, et qui pose un vrai problème. C'est le jeu exact que la France joue et a joué dans cette espèce de combat livré entre l'Ukraine et la Russie. Alors, comme les gens s'informent peu sur ces questions lointaines et qu'ils sont occupés par bien d'autres choses, notamment par leur vie quotidienne et par l'inflation, ils ne vont pas forcément chercher dans le détail les raisons pour lesquelles la Russie en est arrivée à envahir l'Ukraine et qui est une raison et un projet, un sujet qui date d'il y a 20 ans. Et qui a déjà connu des grandes péripéties en 2014. On n'avait pas été très loin d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine en 2014. Donc, ce sont des sujets que les initiés ne découvrent pas. Mais c'est vrai que pour l'opinion publique générale, ce sont des sujets un peu lointains. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que il n'est pas impossible que dans les semaines qui viennent, on découvre que l'armée ukrainienne a été entraînée, organisée et peut-être même commandée par des officiers occidentaux, américains, incontestablement, probablement britanniques, peut-être français, peut-être suédois, peut-être allemands. Ce qui nous reste à savoir, c'est quelle a été l'implication des services occidentaux dans la provocation permanente que Zelensky a eue, puisque vous savez que la guerre est partie du jour où Zelensky a annoncé que l'Ukraine allait rejoindre l'OTAN et qu'elle accueillerait des armes nucléaires. Donc, ce jour-là, ça a été une ligne rouge franchie pour la Russie et le signal qu'il fallait régler les questions politiques par d'autres moyens que la politique. Ce qui m'inquiète, c'est que cette stratégie ukrainienne, qui était une stratégie de provocation délibérée vis-à-vis de la Russie, on n'imagine pas la Corse, si vous voulez, rejoindre une alliance avec la Chine et annoncer qu'elle va avoir des armes nucléaires pointées vers la France sans que la France ne réagisse. L'Ukraine sait ce sujet-là. Et donc, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'est pas impossible que l'Ukraine ait été manipulée et peut-être plus que ça, téléguidée par les services occidentaux qui voulaient absolument entraîner le monde dans une guerre, dans un chaos.
Oui, mais il est difficile d'avoir la moindre conversation sur ce sujet parce que quand vous dites ça, Eric Vérag, on vous dit vous êtes une ordure. Regardez ces pauvres gens qui sont au bord des routes. C'est Poutine qui a déclenché la guerre, c'est pas l'Ukraine. Et puis voilà, fermez le banc.
Ah oui, mais alors,
ça,
ce qu'il faut...
voilà, ça
Oui,
s'arrête
mais
là.
je précise à ces gens-là qu'avant la guerre, il y avait déjà 9 millions d'Ukrainiens qui avaient quitté leur pays sur une population de 45 millions. C'est-à-dire qu'en gros, un Ukrainien sur cinq a quitté l'Ukraine, avait quitté l'Ukraine avant la guerre, hein, depuis 2014, si vous voulez. Il y a eu un exode massif de 20% de la population ukrainienne qui n'a ému personne, hein, et qui était largement dû à la corruption du régime ukrainien et à son incapacité à organiser une économie prospère. Les gens qui sont allés visiter ces régions vous disent, regardez la Biélorussie qui est dirigée par un dictateur qui n'a pas ma sympathie, qui est le président Loukachenko, le niveau de vie en Biélorussie est supérieur au niveau de vie en Ukraine. Parce que l'État ukrainien a essentiellement une stratégie de paupérisation de son pays pour obéir aux Occidentaux et une stratégie de soumission à l'Occident au mépris des intérêts du peuple ukrainien lui-même. Donc, ce que les gens doivent comprendre, c'est que l'errance des Ukrainiens et les horreurs que les Ukrainiens vivent, et que je ne diminue absolument pas, et la guerre est une chose horrible, nous en sommes d'accord, mais cette horreur, elle a commencé depuis longtemps. Et les Occidentaux ne s'en sont pas préoccupés. D'ailleurs, ils ont imposé en 2014, à l'occasion des événements de Maïdan, un gouvernement qui n'était pas du tout issu d'élections démocratiques.
Évoquons maintenant les risques d'escalade. Parce que, comme vous l'avez dit, ils ont peut-être été entraînés par des Occidentaux, par des Français aussi. Il paraît qu'on aurait retrouvé, dans des convois récupérés par l'armée russe, des bérets, si mon souvenir est bon, de la Légion.
Des bérets verts. Voilà. On a retrouvé des bérets verts et on a retrouvé des plaques...
De la Légion étrangère, française.
De la Légion étrangère et des plaques de la DGSE. Et on estime qu'il y a à peu près 50 légionnaires français en Ukraine, qui combattent en Ukraine.
Est-ce que ça peut être considéré par la Russie comme une déclaration de guerre, comme le fait que la France, finalement, elle est impliquée?
Alors, moi, je le vois de façon un peu différente, si vous voulez. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, la Russie, elle a un projet pour l'Europe, que je cite d'ailleurs, que j'expose dans le courrier des stratèges aujourd'hui, ce qui est une vision qui a été expliquée par Dmitri Medvedev, qui a été, vous savez, premier ministre russe et à une époque président de la Russie. Et donc Medvedev, qui est au cœur du pouvoir en Russie, parle de créer une Eurasie ouverte de Vladivostok à Lisbonne. Et donc je pense aujourd'hui que la Russie ne se laisse pas entraîner par du prurite, si vous voulez, émotionnel. Elle a une vision qui est qu'il faut reconstruire une Europe dont l'influence américaine serait écartée. Et dans cette reconstruction, la France, je pense, aura une place d'allié importante, puisque la France est au fond la puissance, la puissance historiquement, culturellement la plus russophile d'Europe. Hein, les Russes se plaignent beaucoup de la russophobie des Anglais. Et c'est pas la peine de rappeler l'histoire pour dire combien le passage de l'armée allemande a laissé de mauvais souvenirs chez les Russes, y compris dans la partie russe de l'Ukraine. Je pense qu'en réalité, la Russie va avoir une stratégie en deux temps vis-à-vis de la France. Elle va chercher à préserver un allié durable. En revanche, je pense que cet allié, elle ne le conçoit pas avec un Emmanuel Macron à sa tête. Il y aura un sujet, si vous voulez, pour la Russie, qui est de ne pas affaiblir la France plus qu'Emmanuel Macron ne l'a déjà affaibli. En revanche, il va falloir qu'il y ait un changement politique en France. Ça, j'en suis intimement convaincu. Donc, de mon point de vue, la Russie aura une hostilité vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Vladimir Poutine s'en cache à peine, c'est-à-dire que par politesse, il le prend au téléphone, mais il ne lui a lâché aucune concession depuis le début de la guerre, et même avant la guerre. Emmanuel Macron, d'ailleurs, s'est fait remonter les bretelles, comme vous le savez, par le Premier ministre polonais, qui a réclamé la fin des négociations entre Macron et Poutine en expliquant que Macron n'avait rien obtenu et qu'il fallait arrêter de perdre son temps en discutant avec les Russes.
J'aimerais revenir Eric, en réfléchissant un peu sur cette affaire des bérets verts qui ont été retrouvés, des gens de la DGSE qui seraient sur place, qui auraient demandé l'évacuation du couloir de Mariupol, ils sont capturés par les Russes. Oui. La France, elle n'a pas d'autre choix que de dire je ne les connais pas. Ou ils étaient touristes, c'était hors de leurs heures de service finalement.
Probablement.
Vous êtes d'accord avec mon raisonnement ? Parce que si la France dit c'était pendant les heures de service, là c'est la déclaration de guerre.
Non, alors moi ce que je pense c'est que la Russie est à la recherche de preuves sur, je vais appeler ça trivialement un complot occidental pour susciter une force d'extrême droite, une force nostalgique néo-nazie en Ukraine. Alors, beaucoup de Russes sont absolument convaincus que l'Ukraine en elle-même n'est pas une puissance dangereuse et les Russes du système, si vous voulez, sont absolument convaincus que le peuple ukrainien n'est pas un peuple hostile. Ça explique d'ailleurs très probablement le fait que la Russie n'ait pas tapissé l'Ukraine de bombes pour éviter de l'irréparable dans les relations avec le peuple ukrainien. En revanche, les Russes sont absolument convaincus que les forces néo-nazies, ce que Poutine appelait les nazis, c'est-à-dire pour aller vite tous les nostalgiques de Bandera, de Stepan Bandera, les Russes sont convaincus que cette force-là est organisée, mise en avant, mise au pouvoir par les Occidentaux qui veulent susciter, si vous voulez, alors je l'ai lu, une forme d'Al-Qaïda d'extrême droite, d'Al-Qaïda blanche. Et de même que les Américains, dans l'esprit des Russes, ont organisé Al-Qaïda, ce qui factuellement est vrai, en Afghanistan pour affaiblir la Russie en Afghanistan. Et l'affaiblir partout où elle pouvait, c'est-à-dire que dans l'esprit des Russes, le fondamentalisme islamiste est une création de la CIA, est une arme de la CIA pour attaquer la Chine, pour attaquer la Russie, pour affaiblir l'Europe. Aujourd'hui, une partie de l'establishment russe est convaincue qu'il y a un Al-Qaïda blanc, un Al-Qaïda ukrainien, un Al-Qaïda néo-nazi qui se constitue en Ukraine, sous l'égide des services occidentaux, pour affaiblir la Russie partout où c'est possible. Et notamment pour avoir une traînée. Alors on voit par exemple, je diffusais tout à l'heure les images de parachutistes prisonniers russes abattus froidement à bout portant, a priori par un bataillon géorgien qui est venu rejoindre l'armée ukrainienne. Donc on voit bien qu'il y a l'idée chez les Russes que finalement les forces, le bataillon Azov, le bataillon Safari sont structurés par la CIA et par les services occidentaux pour mener des guérillas qui vont affaiblir la Russie partout où c'est possible. Et ça, je crois que dans l'opération qui est en cours à Mariupol, le siège de Mariupol, il y a la volonté de coincer, de faire prisonnier des officiers de renseignement occidentaux pour les faire parler. Et je pense que ça va devenir une affaire dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire que si les Russes parviennent à mettre la main dessus, et a priori ils vont y arriver, je pense qu'il y aura une affaire internationale qui va se structurer autour du rôle des services occidentaux dans la montée de l'extrême droite néo-nazie en Ukraine.
Alors, évoquons maintenant les risques d'escalade avec Zelensky, le président Zelensky ukrainien, qui n'arrête pas de dire « ne laissez pas tomber, fournissez, venez vous battre, les armes, rentrez l'OTAN », les Américains qui poussent ce jeu. Quels sont les risques d'escalade, Éric Vérage ?
Alors, moi, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, Zelensky est manipulé aux ordres du deep state américain qui veut la guerre avec la Russie, qui veut une confrontation, qui veut un nouveau Yalta, qui veut figer dans le marbre un nouveau Yalta, et qui compte sur un certain nombre d'alliés qui poussent au crime. Si vous voulez. Donc dans les alliés, incontestablement, la Grande-Bretagne est aujourd'hui animée d'une volonté du pire. Les positions de Boris Johnson sont des positions extrémistes vis-à-vis de la Russie. Et on voit bien qu'il y a un axe anglo-saxon qui pousse à la roue, si vous voulez, qui pousse au conflit, qui jette de l'huile sur le feu vis-à-vis de la Russie. Avec une Pologne, une Lituanie, qui sont les idiots utiles de ce conflit. Alors, on connaît la vieille haine russophobe polonaise, qu'on peut comprendre à certains égards, d'ailleurs. Mais la Pologne est aujourd'hui elle-même actrice d'une politique du pire vis-à-vis de la Russie. Donc le risque, de mon point de vue, c'est que le camp des faucons, si vous voulez, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Pologne, la Lituanie, qui fournit des obusiers aujourd'hui à l'armée ukrainienne, ma crainte, c'est que ces faucons remportent le morceau et en tout cas aient une capacité de nuisance suffisante pour entraîner toute l'Europe dans un conflit ouvert avec la Russie, avec notamment des frappes nucléaires hypersoniques.
Ça veut dire très ciblées.
Alors, ce sont des frappes qui sont extrêmement déroutantes parce que donc les missiles qui peuvent être porteurs de des missiles hypersoniques qui peuvent être porteurs de têtes nucléaires peuvent donc volent à plus de 7000 km/h, donc à une vitesse phénoménale, hein, et ont une trajectoire qui est incalculable, c'est-à-dire que lorsqu'un missile nucléaire hypersonique est lancé, on ne sait pas où il va atterrir, on ne peut pas anticiper son point de chute. Et donc c'est une arme extrêmement redoutable parce qu'elle est à peu près imparable. Et donc il n'est pas impossible que la Russie, qui bénéficie aujourd'hui d'un avantage technologique qui sera de courte durée, mais avantage technologique sur les États-Unis et en partie sur la Chine et bien entendu sur la France, il n'est pas impossible que la Russie décide de tirer parti de son avantage stratégique et de lancer une frappe préventive si le conflit devait dégénérer. Et là-dessus, il faut faire très attention parce que si la Chine se décidait à attaquer Taïwan, à envahir Taïwan, ce qui n'est pas exclu, nous serions là dans une situation extrême. Pour l'instant, il faut comprendre que nous en sommes à 40 jours de guerre. C'est-à-dire que si vous vous souvenez que la guerre de 40 a commencé le 1er septembre 1939, nous sommes à l'équivalent du 10 octobre 1939. Nous sommes très loin de savoir tout ce qui va se passer et tout ce qui va suivre. Ayons bien ça à l'esprit. Hein. Le pire n'est jamais sûr, mais il peut arriver.
On nous dit beaucoup que l'armée russe n'écoute plus, qu'elle est désorganisée, que finalement ils sont pas aussi forts que ça, que c'est la grande déception, ils nous ont fait peur pour rien, vous l'avez lu, hein, ça, voilà. Est-ce qu'il faut croire en tout cela ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que une armée, c'est pas des petits chevaux sur un jeu d'enfant. Hein. Ça ne se bouge pas de façon aussi simple. Il y a énormément de problèmes techniques d'abord, il y a des chars qui tombent en panne, des hélicoptères qui tombent en panne, etc. Il y a des problèmes logistiques, il faut nourrir tout le monde, on voit ces immenses colonnes, si vous voulez, de matériel militaire, de camions militaires notamment qui s'amassent sur les routes. Tout ça pose des problèmes et tout ça est vulnérable. Et par ailleurs, l'armée russe a des points de vulnérabilité quasi historiques. C'est-à-dire que si quand vous lisez, je sais que vous le faites Yannick, les fils télégrammes des stratèges russes, en russe certes, mais bon, on peut y avoir accès quand même, ils pointent régulièrement les mêmes faiblesses depuis la guerre en Syrie, c'est-à-dire une difficulté de l'armée russe à protéger ses colonnes d'approvisionnement. Et ça, incontestablement, on l'a vu aussi en Ukraine. Maintenant, il se trouve que... il est très probable que la Russie n'ait pas engagé ses meilleures forces, et que l'objectif de la Russie, tout le problème est de savoir quel est son objectif de guerre. En réalité, personne ne le connaît à ce stade. Mais tout le monde en Europe a la représentation d'une redite de la Blitzkrieg. On prend des chars et on arrive le plus vite possible dans la capitale ennemie et on saccage tout sur son passage. Ça, c'est la Blitzkrieg telle qu'on l'a connue dans les années 40. Et c'est notre représentation un peu, je dirais, basique de la guerre mondiale. Sauf qu'il est très probable que l'enjeu de la Russie ne soit pas celui-là et que sa stratégie ne soit pas d'écraser l'Ukraine, ni d'en prendre possession dans sa totalité en tout cas, ni d'en faire une énième province qu'elle coloniserait, si vous voulez. C'est pas ça l'objectif. Il est plutôt, d'une façon ou d'une autre, de remettre en cause un ordre mondial. Et donc, il déborde très largement la simple question ukrainienne, à mon avis.
Merci, cher Eric Vérag,
c'est
pour
moi
ce
qui
tour
vous
d'horizon
remercie.
de l'actualité. On peut vous retrouver via le site internet Le Courrier des Stratèges. On s'abonne au Courrier des Stratèges et c'est toute l'info. C'est un site d'info, pas comme les autres, puisque l'objectif ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Et comme dit son nom, Le Courrier des Stratèges, l'info que vous donnez via le site Eric Vérag, c'est de l'info qui nous permet de décrypter l'actualité et de mieux prendre nos décisions. Il
Merci
est meilleur
beaucoup.
Que les autres à la ligne d'arrivée. Eric Vérag était mon invité sur CarNews.